Ça vous dit d'aller boire un verre?
Non, on écoute, vous êtes libre ce soir.
Bonjour, bienvenue sur Vous êtes libre ce soir, l'émission de la du logiciel libre mais aussi de la culture libre, et on a la chance d'avoir un nouveau membre. Et oui, nous ne sommes plus deux, mais trois, donc bienvenue Alex.
Eh ben merci de votre accueil les gars. Alors bah, moi c'est Alex, futur membre de l'asso en création culture libre et création collective, voilà, sur Tours, et je rejoins avec plaisir l'équipe de VELCS.
Voilà, pour nous donner un coup de main et des infos supplémentaires. Et donc, à propos d'infos, eh ben, on va faire une émission sur les formats, alors aussi bien informatique que non informatique, plus ou moins. Et Emmanuel, d'ailleurs, t'as un petit exemple qui n'a rien d'informatique.
Oui. En tout cas, c'est un exemple qui touche tout le monde, parce que à peu près tout le monde est consommateur de café ou autre boisson chaude. Et justement, la dernière mode dans ce marché... c'est les machines à café nouvelle génération avec les petites dosettes.
Mon bon vieux percolateur.
Ouais. à une époque pas si lointaine, il y avait encore des cafetières. Alors c'était assez pratique parce que t'avais une matière première sous forme de grains ou de petites poudres que tu mettais dans un filtre et tout ça, tu mettais ça dans une cafetière tout à fait normale. Dont on pouvait trouver des dizaines de modèles sur le marché, pratiquement toute la matière était standard, et il y avait du choix, la concurrence. Et justement, ce qu'il y a maintenant, c'est les machines à café Senseo, Tassimo, Nespresso, tout ce qu'on veut.
Avec des petites dosettes à mettre dedans.
Ouais, et c'est ça justement le problème des dosettes. C'est que si vous regardez entre les différents modèles, c'est jamais les mêmes. Et surtout, ce que ça donne, ces choses-là, c'est un certain enfermement par rapport à un modèle. Si vous achetez la machine Senseo, vous pouvez plus vous contenter d'avoir la petite poudre dans une grande boîte qui coûtait pas cher. Là, vous êtes obligé d'acheter des dosettes Senseo.
Donc du conditionnement supplémentaire. Et puis un format qui est complètement fermé par rapport au paquet de café d'un kilo qui pouvait aller dans n'importe quelle cafetière. Quoi.
Et le summum du propriétaire, on va dire, c'est Nespresso, je crois, et pas Senseo, qui a une dosette en aluminium écolo, d'après Alex.
Oui, n'en déplaise à Georges Clooney, mais autant la dosette papier de marque Senseo ou générique est potentiellement facilement recyclable, autant la petite le petit récipient aluminium de la cafetière Nespresso est difficilement recyclable et voilà quoi.
Voilà, alors en plus de ça, la concurrence peut pas, il y a un brevet sur cette c'est pas vraiment une dosette, donc sur cette capsule, et un concurrent peut pas dire moi je vais faire du café qui marche sur les machines Nespresso, c'est complètement verrouillé, t'as une machine Nespresso, t'achètes du café Nespresso et le jour où t'en veux un autre, c'est pas possible, ou alors tu changes de machine.
Ou alors ça te sert juste de bouilloire où tu verses de l'eau tiède ou chaude dans un verre.
Voilà.
Et donc ça amène aussi, pour expliquer un peu plus ce que sont les formats fermés, ça amène aussi un autre problème ultérieur, c'est-à-dire que si un jour Nespresso ferme boutique, dépose le bilan ou arrête de produire des cafetières, toutes ces dosettes seront inutilisables. Et inversement, toutes les dosettes qui restent sur le marché deviennent complètement inutilisables.
Ouais, il y a le contraire qui est pire, je pense. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est qu'en fait la cafetière devient inutilisable parce que tu trouves plus de dosettes pour.
Éventuellement, ouais.
Et là où les entreprises jouent la part anti-sorcier, c'est pas seulement sur du café, parce que bon, le café on peut s'en passer.
C'est pas vrai, non, on peut pas s'en passer.
Mais en tout cas, les données qu'on traite tous les jours, votre messagerie, les documents de travail de votre entreprise. Après, tout ça, ça passe par des formats aussi. C'est quelque chose d'un peu plus immatériel, mais qui aussi nous touche. Parce que, fatalement, il y a des éditeurs qui choisissent aussi de vous enfermer, vous serez pieds et poings liés par rapport à leurs outils.
Alors, pour pas nous laisser faire, enfin, pour survivre quand même dans ce monde dur, heureusement, il existe des formats ouverts un peu partout et en grand nombre. Alors, je pense que, Alex, t'avais une petite définition des formats ouverts qui est celle de la loi.
Ah oui, tout à fait, c'est pas une définition personnelle, c'est une définition publiée au Journal officiel, qui date du 22 juin 2004, qui dit « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange, et tout format de données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. » Donc concrètement, c'est-à-dire que n'importe qui peut utiliser ces formats, les redistribuer, les échanger. Le fait qu'un format soit ouvert, ça permet son interopérabilité, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser a priori sur toutes les machines, dans la mesure où elles sont capables de le lire, de le décrypter en données, enfin en informations utilisables pour l'utilisateur, contrairement à un format fermé qui enferme justement sur un type de matériel ou un outil d'exploitation de cette donnée.
Exemple, au niveau de la musique. On se souvient très bien de l'époque où il y avait des menottes numériques et donc on allait acheter, justement parce qu'on avait un iPod, sa musique chez iTunes Music Store. Après, on ne pouvait la lire qu'avec son iPod et sur un ordinateur, on pouvait la lire qu'avec iTunes.
À savoir que l'époque des DRM n'est pas forcément si révolue que ça, puisqu'il y en a que ça fait encore rêver visiblement et on ne sait pas si ça va parvenir un de ces quatre. Alors, comme exemple de format non ouvert en informatique, on a les
anciens formats de Microsoft Office jusqu'à la version 2003, n'est-ce pas ?
Voilà, ouais, alors qui était fermé, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas accès aux sources. Il s'ouvrait sous Word très bien, mais par contre, si Word n'existait plus ou quoi que ce soit, on n'avait pas forcément accès les outils pour le lire et on n'avait pas forcément non plus le droit pour le lire, parce que derrière, il y a la logique des brevets.
Donc, le fait que les formats de Microsoft Office soient fermés faisait que pour les développeurs d'applications concurrentes, c'était très difficile de bien gérer les formats de Microsoft. Et en fait, le problème, c'est que quand on n'avait pas les outils de Microsoft et qu'on nous envoyait des formats DOC ou XLS, eh bien, on les ouvrait dans une certaine manière, mais on n'avait pas un bon rendu. Et en même temps, ça crée une gêne par rapport aux utilisateurs de...
Voilà, fallait beaucoup de travail pour pouvoir comprendre comment marchait le point doc sans aucune documentation, en fait, juste en regardant ce qui se passait quand on appuie sur la touche S, etc. Et donc, c'était très compliqué. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire, Microsoft s'est un petit peu rattrapé ou a été obligé.
S'est senti obligé, ouais.
Voilà. D'ouvrir ces formats. Maintenant, ce qui est du point doc et du docx, leur nouveau format, ils sont ouverts.
En même temps, c'était un petit peu une exigence des pouvoirs publics qui disait clairement en France, si vous ne faites pas des formats ouverts avec lesquels on pourra discuter facilement avec nos citoyens, eh ben on vous achète pas votre produit. Alors, un petit peu une exigence.
Il y a la question des formats ouverts, il y a aussi la question des formats brevetés, c'est-à-dire qu'un format peut être ouvert, c'est-à-dire spécifié, mais que pour autant on n'est pas le droit d'en faire ce qu'on veut.
Ouais. Exemple typique. Le format MP3, qui est un format ouvert. Donc, un informaticien a les spécifications, il peut écrire du logiciel pour gérer du MP3. Sauf que derrière, il y a un joli brevet qui fait que l'usage de MP3 est soumis au paiement d'une licence.
Alors, vous allez me dire, vous n'avez pas l'impression de payer grand-chose quand vous utilisez, créez un MP3, mais en réalité, c'est les concepteurs de logiciels qui sont censés être soumis à ce paiement. C'est aussi les entreprises qui utilisent, les industries, les majors qui utilisent ce format, qui doivent payer une redevance.
Ou même les constructeurs de matériel d'écoute, comme des lecteurs, le lecteur MP3, finalement, dans le prix d'achat, vous avez vous-même, enfin, le fabricant a répercuté le prix de cette licence dans le prix d'achat de votre lecteur.
Vous n'êtes pas au courant, mais en fait, vous payez bien quand vous utilisez des MP3 par ce biais-là. Alors, quand même, pour en revenir à la musique, il existe une alternative qui est le OGG, OGG qui lui est un format ouvert, mais également non soumis au brevet. C'est-à-dire que là, un concepteur de logiciel ou un fabricant de cassettes vidéo, non, je suis un peu ancien, de MP3, de lecteur MP3, ça s'appelle comme ça, peut aussi fournir le hog, on peut l'écouter, là il n'aura rien à payer, donc le consommateur au final non plus. Et c'est un très bon format.
Oui, techniquement un peu supérieur au MP3, à une quantité d'encodage similaire. Donc on va faire la petite pause musicale.
Alors moi ce que je propose c'est que ce soit Alex qui choisisse le morceau vu que vu qu'il
c'est
arrive
un très bon connaisseur aussi.
Ouais, on l'a pas prévenu avant l'émission pour qu'il soit bloqué sur le coup et qu'il doive trouver.
Alors moi je propose un morceau d'un artiste que j'aime beaucoup, donc trouvé sur Jamendo, n'hésitez pas, qui s'appelle Brad Sucks.
Alors ce qu'on vous propose de passer c'est Fake It qui est sur l'album Out of It, avec mon accent anglais c'est merveilleux, que vous pouvez trouver sur le site de Brad Sucks, on vous dira la licence, là je l'ai pas sur le coup après le morceau, voilà c'est parti.
If it's the same with you, I'll
de retour sur Vous êtes libre ce soir. Donc une petite polémique du moment sur justement la question des formats, c'est la balise vidéo utilisée sur les sites web. Comme par exemple, enfin un exemple très concret, c'est les sites de streaming vidéo type YouTube.
Ouais.
Disons qu'à la base, jusqu'à maintenant, il y a le lecteur flash qui sert à indirectement à faire des vidéos sur Internet. Il n'était pas prévu pour ça, mais maintenant c'est son principal usage. Et donc c'est un format un peu vieillissant dont on cherche à se débarrasser.
Et qui a en plus le malheur d'être propriétaire et pas intégré à la base. Il faut rajouter un petit plugin sur son ordinateur et c'est pas forcément marrant, surtout quand on est sous Linux. Enfin, ouais. c'est une technologie qu'on aime pas beaucoup.
Et sans ramener au système d'exploitation de votre ordinateur, tout simplement si vous avez une connexion, enfin un débit qui n'est pas énorme, si vous êtes au fin fond de la campagne et une bande passante pas terrible, le flash, vous arriverez pas facilement à lire du flash.
Et donc là, la nouvelle norme du web, c'est de lire la vidéo directement dans le navigateur avec un petit bout de logiciel qui est mis dans le navigateur et qui lit un certain format de vidéo. Sauf que la norme ne dit pas quel est ce format.
Et surtout, elle ne dit pas s'il sera libre ou propriétaire. Et alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un combat entre deux formats. L'un qui est propriétaire, qui s'appelle le H264, voilà, donc qui a l'inconvénient majeur de coûter quelques millions, je crois, si je dis pas de bêtises, à intégrer si jamais les navigateurs web veulent l'intégrer, par exemple Firefox. Alors, quand c'est un navigateur web qui appartient à une grosse entreprise comme Microsoft ou éventuellement le navigateur Chrome de Google, ça pose pas trop de problèmes. Quand par contre c'est Firefox qui est une fondation qui a un petit peu d'argent, mais enfin pas des millions, ou alors Monsieur Dudu qui développe son propre navigateur chez lui parce que il a envie et que c'est son droit, et ben là ils pourront pas payer pour utiliser cette balise vidéo.
Il faut rappeler que par exemple Mozilla fait ses comptes, eux ils distribuent Firefox à 330 millions d'utilisateurs, ça leur ferait en licence de format H264 environ 5 millions de dollars, alors qu'en fait ils en gagnent pas tant que ça, et je crois qu'ils sont dans les 60 millions de dollars en chiffre d'affaires, donc là ils seraient complètement plombés.
Surtout si on tient compte du fait qu'il existe une alternative à ce format, qui est le format Octeora, qui lui est ouvert, et donc n'engage pas de coût de production, si on peut dire.
Qui est également de très bonne qualité, qui est capable de rivaliser, qui est déjà testé sur le web et qui marche très bien, enfin qui a a priori peu de choses à envier au H264. C'est plus une question de choix d'entreprise, etc., que vraiment une question technique. Et en particulier, il y a Google qui a un point important, parce que c'est lui qui peut permettre de faire basculer un peu la balle dans un camp ou dans un autre. Il y a les grosses entreprises qui sont prêtes à utiliser le H264, les petites qui préfèrent le format libre, et Google est un peu au milieu. Ils ont tout à fait les moyens de dire on utilise le H264, et sûrement que le reste des navigateurs devra s'y plier, mais ils ont une politique où d'habitude ils essayent de développer le web, les alternatives libres, qui fait qu'on peut aussi penser qu'ils vont développer le Theora pour dire on garde un internet concurrentiel où les gens peuvent faire du libre.
Disons que là récemment, il y a Google qui est un grand acheteur d'entreprises innovantes, qui a justement acheté l'entreprise qui avait développé le Theora. Et là justement, grâce à cette entreprise, il possède un nouveau format qui est très novateur qui soutient très bien la comparaison avec H264. Sauf que là, ils ont la possibilité de le libérer justement. Et ce format-là permettrait de ne pas voir s'imposer sur le web un format, disons, fermé, breveté, qui serait vraiment d'un effet négatif.
Et bloquant pour beaucoup.
Et bloquant.
Alors, eh ben, on n'a pas encore la réponse hein, à ce qui va se passer, puis on vous propose de la retrouver dans une prochaine émission quand elle viendra.
En tout cas, toujours pour continuer sur les formats ouverts, fermés, propriétaires ou libres, sur notre blog velcs.info. On vous mettra aussi le lien sur une conférence très intéressante d'un monsieur qui s'appelle Thierry Steur et qui anime d'ailleurs le blog formatouvert.org et qui explique par le menu ce que sont les formats ouverts, fermés, bien mieux que nous, et qui vous donnera de nombreux exemples sur ces choses-là et les raisons de bien choisir.
Eh ben, très très bonne conclusion.
Et puis non, rien à rajouter. Merci de votre écoute et à bientôt.
Voilà, au revoir. Voilà.